à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Aujourd'hui, comme tous les quatrièmes vendredis de chaque mois, c'est la Fondation Copernic qui investit l'émission Mode d'emploi. Au micro, on retrouve Damien et Corentin, Claude aux manettes.
Alors aujourd'hui, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du commerce équitable qui est né face à un constat. C'était que des centaines de millions de personnes sur la planète travaillent actuellement dans des conditions extrêmement précaires et pour des salaires dérisoires. Donc face à ce constat est né le commerce équitable qui reste aujourd'hui un concept assez flou pour le grand public. Pourtant, il génère plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 2 millions de producteurs dans le monde en bénéficient. Ce soir, nous allons tenter de chercher à comprendre mieux le fonctionnement du commerce équitable et de répondre à un certain nombre de questions, notamment comment ce commerce équitable fonctionne-t-il concrètement, en particulier par rapport au système conventionnel, quels sont les différents acteurs en présence. En quoi peut-on considérer ce système comme plus juste et quelles sont les limites de ce système s'il en a. Donc pour répondre à ces questions, autour de la table, nous avons le plaisir d'accueillir Gérald Gaudreuil. Bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes engagé depuis 1996 à Artisans du Monde, actuellement délégué général. Artisans du Monde qui fête cette année ses 40 ans. Bon anniversaire. Donc vous êtes également membre du conseil d'administration et du bureau de la plateforme pour le commerce équitable, administrateur du CRID, donc le centre de recherche et d'information pour le développement, et membre du bureau également du comité français pour la solidarité internationale. Nous recevons également Christophe Eberhardt.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc vous êtes cofondateur de la coopérative Éthicable, qui est une entreprise coopérative, comme son nom l'indique, solidaire, qui propose toute une sorte de gamme de produits issus du commerce équitable. Et vous êtes impliqué depuis plus de 15 ans maintenant dans l'appui aux organisations paysannes sur le terrain dans le cadre d'ONG, dont Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Donc, à ce titre, vous avez plutôt une vision particulière et fine de l'aspect producteur du commerce équitable. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler et nous contacter ce soir si vous souhaitez réagir au 01 40 05 06 10 et intervenir à tout moment. Comme toutes les précédentes émissions, celle d'aujourd'hui, vous pouvez la télécharger dès ce soir sur le site internet de la Fondation Copernic ou la réécouter mercredi matin au réveil à 7h30.
Voilà, donc pour commencer, dans un premier temps, on souhaiterait vraiment mieux comprendre ce qu'est le commerce équitable. Son commencement, ses valeurs, comment il s'est initié et que dans le temps il est arrivé à la situation actuelle. Et donc Gérald Gaudreuil, pouvez-vous nous raconter un petit peu cette histoire du commerce équitable ?
Alors l'histoire du commerce équitable, alors, je pourrais remonter jusqu'à Aristote pour parler de l'équité, mais là on va faire un grand saut dans le temps et parler plutôt de la fin des années 40 où on commence à voir aux États-Unis avec 10,000 villages ce qu'on peut comprendre comme les prémices du commerce équitable, le fait de proposer des produits artisanaux qui viennent des pays du Sud et de les vendre pour permettre à des populations d'avoir des revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. L'essor du commerce équitable va plutôt dater des années 60, 70 et notamment en France, arrivé en 74 avec Artisans du Monde. Comme vous l'avez dit, on fête nos 40 ans. Et la démarche du commerce équitable à l'époque n'est pas celle d'un commerce équitable, c'est d'un commerce alternatif. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des démarches des courants tiers-mondistes, des courants qui souhaitent justement de post-colonisation et de permettre à des populations du Sud, des pays, d'améliorer leurs conditions de vie, de pouvoir permettre à des producteurs de vivre de leur travail. C'est aussi une époque où on va soutenir des mouvements de libération en Tanzanie, sandiniste. Donc on voit à la base de commerce équitable une dimension très politique dans ces années-là, qu'on verra plus tard aussi en France avec Artisans du Monde, où on soutiendra aussi des réfugiés chiliens. Donc maintenant, on n'est plus à notre époque, à cette démarche-là. Donc ça peut effectivement interroger aussi comment on a évolué dans le temps. Et ce qu'on appelle le commerce équitable, ça va vraiment plutôt émerger fortement en France dans les années 80. Dans les années 80, où on va avoir en 88 la naissance de Max Havelaar en France et l'arrivée fin des années 90 des premiers produits labellisés en grande surface, autour des années 98. Donc là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on va commencer à entendre parler du commerce équitable. Ça va se concrétiser, se mesurer notamment par la notoriété du commerce équitable qui va faire un bond important, passant de 9% de taux de notoriété à plus de 90% aujourd'hui. Après, notoriété du terme commerce équitable ne veut pas forcément dire ce qu'est le commerce équitable. Les gens ne savent pas toujours ce qu'on met derrière, donc on sera l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Et après, on passe, je dirais, aux années 2000 jusqu'à 2008, où on peut dire que c'était un peu le pic du commerce équitable en termes de croissance, de chiffre d'affaires, du nombre d'acteurs en France. Et on a pu noter à partir de 2008 un tournant du commerce équitable où on voit que le chiffre d'affaires continue à progresser, mais on voit que le paysage des acteurs évolue.
Alors concrètement, Christophe, peut-être là on parle d'un pic de 2008 d'un certain nombre d'acteurs. Peut-être première question, un peu naïve, mais comment tout ça est organisé? Quels sont les différents acteurs en présence? En gros, comment fonctionne le commerce équitable?
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'acteurs. Gérald représente Artisans du Monde, que les auditeurs connaissent certainement, qui sont un système de boutiques avec un système d'importation de produits vendus dans les boutiques. Et puis il y a l'autre famille de produits, l'autre famille qui sont le système labellisé. Donc on parlait du label Max Havelaar tout à l'heure, avec des entreprises qui achètent des produits auprès d'organisations de producteurs et qui sont certifiées, labellisées, c'est-à-dire qu'il y a cette certification, ce label qui garantit que les produits ont bien été achetés dans les conditions du commerce équitable, avec des critères qui sont définis par filière. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, pour le café, le cacao, le coton, des prix minimums garantis qui sont définis. Lorsque les prix du marché s'effondrent, l'entreprise qui achète dans le cadre du commerce équitable doit acheter au prix minimum garanti. Et puis, lorsque les prix du marché montent, c'est le prix du marché plus une prime de développement qui permet aux organisations de producteurs de financer leur développement et de mener des projets. Donc ça, c'est le principe. Une vision à long terme, une relation la plus directe possible avec les organisations de producteurs. Voilà, je dirais, les éléments qui caractérisent le commerce équitable qu'on pratique aujourd'hui.
Très bien. Donc du coup, si on caractérise le process de commerce équitable, en gros, du producteur à la chaîne, quels sont les différents intervenants qu'on va retrouver? Donc il y a bien sûr le producteur dans un premier temps, après sur la transformation, et quelles sont les différentes étapes qui vont mener au produit fini?
Alors, en général, je vais prendre l'exemple d'Étiquable parce que ça va être plus concret pour moi. Donc on achète tous nos produits auprès d'organisations de producteurs. On importe nous-mêmes, on est importateur et distributeur de produits. Donc on achète des cafés auprès d'organisations de paysannes. Hein, ce sont des organisations qui réunissent des producteurs qui ont 1, 2, 3, 4, 5 hectares de café ou de cacao. Qui rassemblent 100, 500, parfois 1000 producteurs. Donc, elles parviennent à rassembler des volumes assez importants parce qu'ils sont nombreux. Là, on achète ces produits. Ce sont les organisations de producteurs qui exportent. Et on fait transformer les produits. Bon, le café, nous le torréfions nous-mêmes. Les autres produits, nous les faisons fabriquer. Nous fournissons les fèves de cacao à un chocolatier qui fabrique les tablettes de chocolat. Et puis, nous les commercialisons. Ça, c'est notre système. Celui que Gérald va nous expliquer tout à l'heure est un peu différent, puisqu'eux maîtrisent leur propre boutique. Nous passons par le commerce conventionnel. Et puis, il y a évidemment d'autres types de commerce équitable. Vous aurez certainement vu dans les supermarchés des marques de distributeurs, c'est-à-dire que les produits qui sont à la marque des supermarchés, qui fonctionnent dans ce cas un peu différemment, puisque généralement elles passent par plusieurs entreprises qui peuvent importer les produits, les faire fabriquer pour le compte du supermarché.
Ok. Du coup, on peut peut-être enchaîner sur vous, Gérald, histoire de comprendre un peu votre système. Qu'est-ce qu'Artisans du Monde au sein du commerce équitable?
Alors, Artisans du Monde, on a une particularité, je dirais, c'est que nous, on est ce qu'on appelle une filière intégrée. Donc, ça veut dire que, je dirais, ce que vient d'expliquer Christophe, à la base, au niveau des producteurs, on retrouve un peu le même mode d'organisation, puisque ce qui est important aussi dans le commerce équitable, c'est le fait de travailler avec des organisations de producteurs, des groupements qui peuvent prendre différentes formes, que ce soit des coopératives, des associations, des entreprises à but social. Donc, on retrouve toutes les formes possibles et imaginables. Et l'idée, c'est bien effectivement de permettre à des artisans, des paysans, de se regrouper pour renforcer leur rapport de force avec l'acheteur et être en capacité de développer des process de transformation aussi, parce que ça, c'est un élément important. C'est qu'on se rend compte dans le commerce international, c'est souvent que la valeur ajoutée, elle est plus au nord qu'au sud. Et un des enjeux du commerce équitable, c'est de permettre de faire en sorte que la valeur ajoutée soit également chez les producteurs. Donc quand il s'agit pour nous de l'artisanat, c'est assez simple, parce que le produit, c'est un produit fini, qu'on va importer, qu'on va distribuer. Quand c'est des produits alimentaires, on va essayer de chercher au maximum à faire en sorte que la valeur ajoutée soit au sud. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des producteurs au Laos qui vont faire des confitures et on va acheter des pots de confiture ou des jus de fruits embouteillés. Donc ça a forcément un coût supplémentaire. Ça va mettre des coûts de droits de douane un peu plus importants parce que moins vous transformez le produit, plus les droits de douane sont faibles. Donc effectivement, le système de commerce international ne favorise pas le fait la transformation au sud et la valeur ajoutée au sud. Et donc nous, on va essayer de chercher, pareil, avec des producteurs de cacao, on va apporter du beurre de cacao et du chocolat pour pouvoir justement maximiser la valeur ajoutée, faire en sorte que le maximum d'argent reste chez le producteur. Après, dans la chaîne, dans la filière, on va effectivement passer par des transporteurs qui sont de fait pas équitables, mais on n'a pas les moyens d'avoir notre propre flotte de bateaux. Et après, sur les transformateurs, ça va être souvent des transformateurs, des petites unités de transformation, mais qui ne sont pas forcément des transformateurs, certifiés équitables, mais tout le processus l'est. Et après, au niveau de la distribution, effectivement, on a fait un choix qui était le choix d'avoir un réseau de boutiques indépendantes, un réseau de boutiques associatives, parce que pour nous, également, l'idée, c'est d'avoir par le système associatif, on a de fait une démarche collective, un but non lucratif, et aussi une indépendance qu'on ne pourrait pas avoir si on était dans le commerce, je dirais, conventionnel.
Une de mes questions, du coup, on voit qu'il y a plusieurs modèles différents, dont le concept de marque distributeur. Quelles sont les vraies différences entre chacun, puisque on y reviendra un peu plus tard sur les différents labels, et donc on a parlé de Max Havla. Donc voir comment ces labels garantissent le commerce équitable et quels sont les différents types de commerce équitable. Quelle est votre différence, par exemple, par rapport à des marques Lidl qui font du commerce équitable?
Il est vrai qu'avec le temps, sont apparus plusieurs acteurs et qu'aujourd'hui, on a des commerces équitables, on a des pratiques différentes selon les acteurs. Nous, Ethicable, nous sommes une entreprise coopérative, une SCOP. On fait ce travail d'appui aux producteurs, d'achat direct aux différentes organisations de producteurs et de distribution des produits. Donc il y a le lien direct avec les producteurs. On va sur le terrain, on les connaît. On a un collègue qui est présent sur place en Amérique du Sud. Donc il y a ce travail de proximité qui se fait, hein, d'accompagnement qui est important. Il est clair que d'autres acteurs, vous parliez des marques de distributeurs, travaillent différemment. Elles travaillent également sous le label Max Havla. Ce sont les mêmes critères de base. On va dire que ces critères sont un peu comme il y a une espèce de critère minimum. Il y a un dénominateur commun qui est le respect de certains prix, de certains engagements. Et puis après, des entreprises qui ont des engagements plus forts, un travail à long terme, un investissement sur place, le soutien à certains projets, voilà, qui sont des formes différentes. Voilà. Aujourd'hui, les deux coexistent sur le marché. C'est vrai que nous, un de nos défis est de pouvoir expliquer aux consommateurs qui achètent les produits, par exemple en supermarché, que effectivement, c'est bien d'acheter des produits équitables à marque distributeur ou à une marque comme la nôtre, mais que ce sont des démarches différentes, que derrière ce produit, il y a un projet qui est différent.
Les valeurs sont un peu différentes aussi, du coup.
Oui, les valeurs sont un peu différentes, parce qu'évidemment, pour le supermarché, l'idée est de répondre à une demande d'un consommateur qui a envie de consommer des produits équitables. Donc les supermarchés ont répondu à cette demande, hein, parce que ce sont avant tout des commerçants, donc ils répondent à la demande des... Et puis, quelque part, ces supermarchés considèrent les enseignes de grande distribution... considère que le commerce équitable vient aussi leur donner une meilleure image, etc. Donc, surtout dans les premières années, j'ai envie de dire au début des années 2000, elles étaient très motivées pour développer des gammes de produits équitables. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une tendance un peu moins fortement marquée. Hein, avec le début de la crise, 2008-2009, ces supermarchés ont peut-être un peu rationalisé leur gamme, peut-être un peu freiné le développement de leurs produits.
Ok. Je vais revenir sur un terme qu'on a utilisé plusieurs fois, le mot label. En gros, il y a des organismes certificateurs. Comment cela fonctionne? Comment ne pas s'y perdre? Alors, ça veut dire qu'il y a des normes. Comment tout cela fonctionne, en fait, ce certificat?
En fait, les systèmes de garantie, qu'est-ce que vous apporte un système de garantie? En fait, c'est donner confiance aux consommateurs, donner une assurance que le cahier des charges du commerce équitable, qui de fait repose sur des principes qui sont communs, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu au niveau de l'Organisation mondiale du commerce équitable, dont fait partie Artisans du Monde, où il y a beaucoup de producteurs, ou le système type Max Havla ou EcoCert ou d'autres, on voit que les principes du commerce équitable, je dirais, ce que disait Christophe, il y a un socle commun. Après, le système de garantie va avoir différentes façons de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes, ce qu'on appelle de garantie dit participatif. On va notamment dans le système de l'Organisation mondiale du commerce équitable, c'est de faire en sorte que les personnes s'auto-évaluent d'abord. C'est une auto-évaluation, après une évaluation par les pairs, et après une évaluation externe par un organisme certificateur indépendant qui va venir donner la crédibilité du système et la fiabilité, démontrer que votre système est performant en termes de vérification, que ce que vous faites correspond à ce que vous dites. Après, sur des systèmes type MaxSavler ou EcoCert, on est sur ce qu'on appelle des systèmes de certification externe, ou directement être sur la base d'un audit, un organisme certificateur agréé va venir vérifier sur le terrain que vos pratiques correspondent au cahier des charges à laquelle vous devez répondre pour avoir le label, le logo Artisan du Monde ou le logo MaxSavler ou EcoCert ou d'autres types de labels.
D'accord. Mais alors qui est au-dessus en fait de ces organismes certificateurs qui on parle de l'AFNOR, mais enfin je sais pas si c'est l'AFNOR ou qui écrit les normes et comment ça se passe concrètement
Et quelles sont concrètement ces normes? C'est-à-dire il y a une vraie valeur ajoutée au commerce équitable qui repose sur certains piliers. Quels sont ces piliers?
Alors déjà ce sont des cahiers des charges des privés en fait. C'est pas, il y a pas de normes publiques, il y a une définition publique du commerce équitable qui vient de justement de changer là avec la loi sur l'économie sociale et solidaire, mais il n'y a pas de normes publiques qui définit les critères du commerce équitable. Donc après, les grands principes du commerce équitable, on pourrait les découper en principes économiques, donc c'est la question du juste prix, la question du préfinancement. On pourrait inclure dedans également la relation durable parce que ça participe également à une visibilité économique pour les producteurs. Après, on a des critères sociaux qui sont pour l'essentiel les normes de l'OIT, qui sont autour des questions de discrimination, d'exploitation du travail, etc. On a des critères environnementaux. Donc, la démarche du commerce équitable vise bien à voir le moindre impact possible sur l'environnement. Donc, on voit aussi que la plupart des produits alimentaires agricoles sont biologiques. Et après, il y a aussi des critères de ce qu'on appelle de gouvernance, de fonctionnement participatif, transparent. Et un critère aussi qui est important, c'est ce qu'on appelle l'information, la sensibilisation. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que le commerce équitable, il a comme deux objectifs. Un premier qui est effectivement de permettre à des producteurs d'améliorer leurs conditions de vie, de vivre dignement et d'être acteurs de leur propre développement. Mais il y a un deuxième objectif du commerce équitable, qui est un objectif certes un peu ambitieux, mais qui est de changer les pratiques et les règles du commerce international. Puisque l'observation qui est faite, c'est bien parce que les fondements du commerce international sont inéquitables, qu'on a des inégalités, de l'iniquité. Donc il faut effectivement s'attaquer au fondement. Et au fondement du commerce équitable, effectivement, l'idée, c'est de faire changer les pratiques du commerce international, donc par l'information du consommateur, par l'éducation, par le plaidoyer, qui sont effectivement des leviers importants pour changer les modes de consommation et de production.
Christophe Ebrard, vous qui avez aussi une vision terrain, qu'est-ce que ça change pour un producteur global d'un producteur commerce équitable par rapport à un producteur qui ne le serait pas? En quoi sa vie est différente?
Eh bien, concrètement, on a un impact aujourd'hui. Lorsqu'on va sur le terrain, lorsqu'on rencontre des producteurs, on se rend compte que donner un juste prix à un produit, rémunérer un produit, renforcer, appuyer une organisation de producteurs, ben ça fonctionne, ça crée des dynamiques, ça permet aux gens d'avoir de meilleurs revenus, de revenus plus stables. Pour des petits paysans qui ont 1 hectare, 2 hectares, souvent la stabilité de revenus est parfois plus importante que le prix proprement dit. Et ça permet de générer des dynamiques d'organisation, de structuration de l'organisation, ses capacités de gestion, ça permet de faire des investissements, ça permet d'améliorer le système de production. Aujourd'hui, le commerce équitable dans l'alimentaire, le café est quand même un phénomène assez important, puisque ça pèse toujours en France, 50% des produits alimentaires de commerce équitable concernent le café. Le café en Amérique latine, depuis maintenant 20 ans de commerce équitable, ça a généré des vraies organisations de producteurs qui ont des vraies capacités, qui ont complètement modifié leur système de production, qui ont amélioré la production, qui ont amélioré la qualité, qui ont acquis des capacités de négociation avec le marché, avec leur gouvernement, avec leur municipalité. Dans le fond, finalement, ça permet surtout de structurer et de renforcer les organisations de producteurs et qui deviennent des acteurs de développement et qui deviennent force de proposition sur leur territoire.
Ok. Je me permets, donc là on vient de poser un peu les clés hein, du débat, donc on a encore plein de questions. On va faire une première pause musicale, on va écouter Pourquoi pas avec le Tango Devo.
Je sais pas ce que je fous, j'ai le moral en mode rural. La dépression au bord des lèvres, comme un employé de chez Renault, écrasé dans son ce soir pour oublier. Dansons jusqu'à nous enivrer, oui, dansons, dansons sur cette terre de temps, sur cette terre de temps, sur cette terre de temps, sur cette terre de tango.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. L'émission Mode d'emploi version Fondation Copernic s'intéresse ce soir au commerce équitable. Alors je souhaitais revenir sur les différents critères. On a évoqué les piliers du développement durable, environnement, social et économique. Alors il y a peut-être un biais ou des contraintes un peu moins fortes sur l'aspect environnemental. Enfin c'est ce qu'on a tendance à penser sur le commerce équitable, c'est qu'on a beaucoup de clauses sur l'aspect social. On en a parlé un petit peu sur l'aspect économique, peut-être un peu moins sur l'environnemental. Est-ce que c'est vrai ou pas?
Il y a des critères environnementaux dans les cahiers des charges, par exemple de celui de Max Havelaar. Il y en a. Il est prévu, par exemple, des limitations de certains produits. Bon, il y a des critères précis concernant l'environnement. Mais il faut dire aussi que la plupart des produits du commerce équitable, enfin en tout cas les nôtres, sont également biologiques. Donc ce sont des produits bio et équitables. Et puis de façon générale, il faut dire que la production équitable, c'est avant tout une agriculture de petite échelle, c'est une agriculture paysanne. Ce sont des paysans qui, le plus souvent, travaillent avec une fertilité naturelle, c'est-à-dire ne mettent pas d'engrais, ont plutôt des systèmes avec des engrais verts ou de l'agroforesterie, c'est-à-dire des systèmes qui permettent au mieux de valoriser la fertilité des sols, et qui, le plus souvent, n'utilisent pas de pesticides. Donc on s'adresse aussi à des systèmes de production qui ont, j'ai envie de dire, un fort potentiel agroécologique et sont intéressants d'un point de vue de l'écologie. Après, il y a des règles, effectivement, et les organisations de producteurs. Au-delà des règles, je crois que ce qui est important, c'est que on puisse soutenir les organisations de producteurs qui elles-mêmes mettent en place une sorte de contrôle social pour protéger des forêts, pour protéger des points d'eau. La gestion de l'environnement, c'est quelque chose qui se fait par les communautés plus que par une série d'interdits qui viendraient d'un cahier des charges extérieur. Donc, le commerce équitable, pour moi, va de pair avec une démarche environnementale forte.
Et une autre question aussi qu'on se posait, dans les critères du commerce équitable, on voit qu'il y a une relation nord-sud. Comment elle s'est instaurée? Pourquoi c'est que Nord-Sud alors qu'il y a des produits aussi des fois locaux qu'on pourrait mettre en vente sous le terme commerce équitable dans...
Alors, la dimension Nord-Sud du commerce équitable ou Sud-Nord vient de fait, c'est un processus historique puisque le commerce équitable initialement, c'était le cas pour Arthur Monde, c'est une démarche de solidarité internationale et c'était le choix de faire un travail de développement par l'économique. C'est-à-dire que, puisque ce qui sous-tendait le commerce équitable, c'est pour permettre à des populations défavorisées de vivre dignement, ce qu'il leur fallait, c'est d'avoir un revenu tiré de leur travail. Donc c'est parce que c'était l'objectif même de faire du développement par l'économie que le commerce équitable a été essentiellement sud-nord. Ce qu'on observe depuis quelques années, c'est qu'on appelle ça du commerce équitable sud-sud. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on a des discussions autour du commerce équitable sud-sud, parce que effectivement, il n'y a pas de façon un peu schématique... les riches au nord et les pauvres au sud. Après, on peut aussi redéfinir le terme de sud et nord, qu'on ne veut pas dire grand-chose, mais ce sera l'objet d'un autre débat. C'est de se dire y a des gens qui peuvent consommer au sud, et on le voit bien, les partenaires, les producteurs qu'on accompagne, qui sont renforcés en organisation, eux-mêmes trouvent des débouchés au sud. Et on a aussi des expériences, il y a presque 10 ans maintenant, on a accompagné une organisation de femmes à Marrakech pour ouvrir une boutique dans le souk, pour pouvoir toucher directement des clients, des consommateurs. Il y a 3 ans, on a accompagné des partenaires à Dakar pour ouvrir une boutique de commerce équitable, ce qui permet aussi de vendre directement leurs produits. Donc on voit que cette démarche-là se développe beaucoup, et beaucoup de producteurs, nous, parce qu'on est pas mal dans le secteur de l'artisanat, on voit qu'ils ont leurs propres boutiques, qui sont aussi showroom, parce qu'ils sont sur des lieux de passage touristique. Ils peuvent toucher une autre clientèle qui leur permet d'avoir des débouchés plus directs, et même des meilleurs prix de vente, puisqu'il y a... il peut augmenter les prix par rapport aux frais qu'on peut avoir en termes d'importation. Et un dernier élément qui est beaucoup plus récent, même si nous, ça fait pareil aussi depuis 2005, qu'on discute un peu de la question de la transposition des principes du commerce équitable dans des relations avec des producteurs en France. Et on voit bien aujourd'hui que ça se concrétise, puisque la loi de l'économie sociale et solidaire, dans un amendement, a modifié la loi de 2005 qui enfermait le commerce équitable dans une relation nord-sud. Donc c'était même la loi française qui disait que le commerce équitable est une relation sud-nord avec des pays en développement. Et maintenant, la nouvelle loi, enfin l'amendement de cette loi, bah, permet de supprimer cette frontière et fait d'une certaine façon le commerce équitable comme une démarche universelle. Et ça s'est aussi concrétisé par le travail mené par la plateforme pour le commerce équitable avec le réseau Impact et l'AFNAB, par la rédaction d'une charte pour le commerce équitable local.
D'accord. Concrètement, il n'y a plus d'appellation nord-sud aujourd'hui dans la définition législative française.
Voilà,
c'est ça.
Ok.
Oui, nous, Étiquable, on est basé à Fleurance, dans le Gers, situé à mi-chemin entre Agen et Auch. Oui, c'est une région rurale.
Il y a des bons produits Étiquables là-bas.
Et il y a des bons produits Étiquables là-bas, bien sûr, puisque c'est vrai qu'au départ, nous étions très centrés sur voilà, les commerces équitables. Pour nous, c'était les petits producteurs. Nous-mêmes avions une expérience dans les pays du Sud. Donc pour nous, c'est le café, le cacao. Et puis très vite, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'autour de nous, les gens disaient « Mais pourquoi on ne travaillait pas avec les paysans d'ici, les paysans de chez nous ?» Et les gens du Gers, les producteurs, notamment bio, sont venus nous voir en disant « Nous, on veut faire du commerce équitable. Nous, on a des produits. Vous faites ça, c'est intéressant. Nous, on a envie de s'inscrire dans cette démarche-là. » Et donc, c'est vrai qu'on a pris le taureau par les cornes à partir de 2010 et on a sorti une gamme de produits en travaillant avec des groupes de producteurs, en essayant d'appliquer les règles ou la philosophie du commerce équitable à une agriculture française, qui est quand même assez différente. On a fait comme ça du piment d'Espelette, du jus de tomate, des farines. On a une petite gamme d'une vingtaine de produits qu'on a intitulé Paysans d'ici. D'accord. Et qui permet effectivement de valoriser des expériences intéressantes dans certains territoires autour du Gers.
Mais c'est des expériences intéressantes mais non certifiables pour le coup.
Pour le coup, non certifiable. C'est vrai que là, on est sur une démarche plutôt... Vous voyez, par exemple, on travaille avec un groupe de producteurs dans la vallée du Rance, au sud de l'Aveyron. Ce sont une association de producteurs bio qui organise un marché bio et qui ont voulu mettre en place une initiative collective autour d'un produit et qui ont monter un système de collecte de châtaignes dans la châtaigneraie traditionnelle à l'état d'abandon qui permet de revaloriser une châtaigneraie. Voilà, donc c'est un projet qui s'inscrit dans un territoire, dans une histoire, qui permet de revaloriser ce patrimoine rural et qui finalement se passe assez bien de certification.
D'accord, bah, très bien. Et peut-être pour rester sur le sujet avant d'en prendre un autre, Artisans du Monde, vous proposez, vous, des produits, vous avez des actions menées France-France, Nord-Nord, je ne sais pas comment on peut...
Alors nous, au niveau d'Artisans du Monde, en fait, on n'a pas fait le choix, je dirais, par l'approche produit, c'est-à-dire de développer des gammes Artisans du Monde de produits du Nord. Par contre, on a même inscrit ça dans nos statuts, puisque les boutiques Artisans du Monde visent à avoir 10% de produits issus de ce qu'on appelle de démarches de l'économie sociale et solidaire, de partenariats locaux. Et on observe bien effectivement dans nos magasins que de territoire à territoire, en fait, les associations vont vendre des produits de producteurs avec lesquels ils sont en relation. Et on a aussi développé des relations assez fortes avec des réseaux comme le réseau Cocagne ou les AMAP, où on voit aussi parce qu'il y a des interactions et aussi parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont dans multi-casquettes dans différents réseaux, et donc ça favorise aussi le lien et la connaissance, faire de la distribution de produits Artisans du Monde dans ces lieux, dans des magasins fermiers et réciproquement. Donc on voit qu'il y a vraiment un travail qui se fait, qui avait été de notre côté plutôt initié dans le cadre de démarches de plaidoyer, puisqu'on avait soutenu des campagnes et qu'on continue à soutenir des campagnes avec la Confédération Paysanne sur les questions de semences, de PAC, de politique agricole commune. Donc c'était plutôt l'entrée plaidoyer qui a fait qu'on a eu un rapprochement avec les producteurs du Nord. Et maintenant, effectivement, c'est nos magasins qui sont également des espaces où on peut trouver des produits du Nord. Mais ça reste vraiment une gamme assez marginale. C'est plus aussi dans la démarche de vouloir soutenir ces initiatives-là que de se dire, voilà, c'est un nouveau créneau à prendre.
Donc on commence à vraiment bien appréhender ce qu'est le commerce équitable, ses valeurs, sur les piliers sur lesquels il repose. On a commencé un peu à l'aborder, mais j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Pour un producteur au quotidien, qu'est-ce qui va aller mieux pour lui? Est-ce qu'il y a un accès à l'éducation qui est plus facile par le commerce équitable? Est-ce qu'il y a des liens ou des interdictions sur le travail des enfants? Comment fonctionne le commerce équitable de ce point de vue-là?
Oui, il y a, comme le disait Gérald tout à l'heure, il y a avant tout une organisation de producteurs. Ça, c'est vrai que pour le consommateur, c'est pas toujours très clair dans son esprit. Pour nous, le commerce équitable, c'est le soutien d'une coopérative ou d'une association de producteurs qui mène son propre projet. Vous voyez. Après, il y a au sein de ces associations des producteurs, des paysans, les artisans, qui améliorent leurs revenus, qui améliorent leur niveau de vie.
Est-ce qu'il y a un investissement, par exemple, dans des écoles par... Vous avez parlé de préfinancement, je ne suis pas sûr que ce soit encore très clair pour les auditeurs. Est-ce que ce préfinancement va servir aussi à ça ou il y a d'autres moyens qu'investir le commerce équitable ?
On pratique dans le commerce équitable ce qu'on appelle une prime de développement qui sert à l'organisation de producteurs pour mener des projets d'investissement qui sont, il faut le dire, plus souvent des projets productifs. Je ne sais pas, nous on travaille par exemple en Haïti avec des producteurs de cacao. Leur prime de développement, ils ont tendance à l'utiliser avant tout dans la fabrication et la multiplication des infrastructures, les caisses de fermentation de cacao qui permettent de faire du cacao de qualité, d'améliorer les chemins, éventuellement d'acheter des mulets pour transporter le cacao parce qu'on est dans des régions où effectivement même l'accès à des animaux de bas pose un problème. Voilà, les gens ont tendance à financer les choses qui sont de leur priorité. Il arrive souvent qu'ils financent également, que la coopérative finance des actions sociales, d'eau potable, parfois, vous parlez d'éducation, et c'est vrai qu'il arrive qu'on refasse le toit de l'école, mais en Haïti comme ailleurs, les écoles sont supposées être mises en place par l'État, et le commerce équitable ne peut pas tout. Le commerce équitable est mené par des coopératives, des organisations producteurs qui mènent des projets sociaux de temps en temps, mais qui mènent des projets qui ont du sens sur le territoire sur lequel ils travaillent avant tout.
Et ça, c'est sur des projets, on va dire, collectifs. Enfin, l'investissement sur des bâtiments publics, vous parliez par exemple d'installation, de rénovation de toiture d'une école, mais sur l'accès aux besoins primaires de manière plus individuelle. Est-ce qu'il y a des chiffres, enfin, est-ce que concrètement, les producteurs qui bénéficient du commerce équitable ont accès à leurs besoins primaires, on va dire peut-être plus facilement, ou est-ce que concrètement il y a des...
Oui, parce que partout on constate que ce sont des processus lents. Hein. Le commerce équitable ne vient pas d'un coup de baguette magique. Je prenais l'exemple des producteurs d'Haïti, de la Fécano dans le nord d'Haïti avec lesquels on travaille. Le commerce équitable ne vient pas d'un coup de baguette magique transformer la situation des paysans haïtiens. On est dans des zones qui sont très reculées, avec un niveau de pauvreté très important. Aujourd'hui, là où ils vendent leur cacao... à 1000 dollars la tonne, à 1 dollar le kilo, eh bien, ils arrivent à le vendre à 1,50€, voire 2€, parce qu'ils améliorent la qualité. Donc, on arrive à augmenter les prix de vente des produits de 20%, 50%. Parfois, on les double lorsque, on est dans le cas d'Haïti où les produits sont effectivement très mal valorisés. Donc ça augmente le revenu des paysans. Ça leur permet, de mieux vivre. Ça leur permet, vous savez, on est sur des économies de petite échelle. Parfois, ça permet, effectivement, d'envoyer les enfants à l'école, de leur payer une paire de souliers. Ça permet, de sécuriser, d'acheter la bouteille d'huile et les produits, alimentaires qu'on ne produit pas. C'est quelque chose d'important.
D'accord. Comment se fait le choix du producteur ? Enfin, est-ce qu'il y a une taille critique ? Vous parliez d'organisation, de coopérative et autres. Est-ce que on décide, là, vous gagnez trop d'argent, ou enfin, vous faites pas partie du commerce équitable ? Enfin, est-ce qu'il y a une taille critique pour un paysan pour accéder au commerce équitable ?
Alors, je dirais au niveau de Darty Monde, je dirais qu'il n'y a pas forcément de taille critique. Après, oui, une taille critique par rapport à ce qu'on appelle une petite organisation de producteurs, notamment... La question notamment dans le milieu agricole sur la taille de l'exploitation dans le paysan et propriétaire. Je dirais, si on s'intéresse aux organisations d'artisanat avec lesquelles on travaille, on va aller de l'organisation qui peut avoir 10 membres comme 10 000 membres. Donc on peut avoir des très grandes organisations, des très grandes ONG qui, ce qu'on appelle des organisations fêtières, qui vont chapeauter ces organisations, ces groupes de producteurs qui peuvent être répartis par métier, par région. Donc je dirais, il n'y a pas forcément de taille. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est effectivement le projet de cette organisation, le fait qu'elle soit effectivement partage cet esprit, cette philosophie du commerce équitable, et beaucoup de relations en fait sont aussi des relations historiques en fait qui ont été liées par des construites par des ONG, et où nous on a pris un peu le relais par le fait de pouvoir apporter des débouchés. Donc il y a des partenaires, là on fête nos 40 ans, le premier partenaire avec lequel on a travaillé au Bangladesh, on travaille encore avec lui. Donc c'est aussi une sorte de relation durable qu'on a instaurée avec les producteurs, parce qu'on sait très bien que le commerce équitable ne fait pas de miracle. Il joue un rôle important, un effet de levier, mais effectivement, c'est pas le commerce équitable qui va révolutionner la vie de ses producteurs, elle va très profondément l'améliorer. On le voit bien sur les études d'impact qui ont pu être menées et qui ont pu être aussi synthétisées par notamment ce qu'a fait le CIRAD. Donc on voit effectivement les effets positifs du commerce équitable, mais ce n'est pas le commerce équitable seul qui pourrait résoudre l'ensemble des difficultés de ces producteurs.
Et ce lien en plus est important parce que quand on voit les façons conventionnelles de faire, ce lien est complètement superficiel, peut être brisé à tout moment. Une dernière question, et c'est intéressant, c'est on a vu du côté producteur, et maintenant j'aimerais voir du côté consommateur. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi un consommateur va acheter équitable? Quelles sont les choses positives pour lui de façon générale, peut-être?
Je crois que aujourd'hui, la consommation de produits équitables devient beaucoup plus naturelle qu'avant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui achètent du café ou du chocolat, beaucoup de café, puisque c'est, comme je le disais, 50% du marché. Aussi parce qu'ils apprécient les produits, parce qu'ils aiment le café équitable. Je crois que quelque part, les consommateurs ont découvert aussi qu'entre un café de grande marque, en général d'une multinationale, fait d'un mélange de café dont on ne connaît pas la provenance... Je crois que les gens aussi, les consommateurs, apprécient aujourd'hui des cafés dont on connaît l'origine, un café de Colombie, un café du Pérou, un café d'Éthiopie. Comme les vins, les cafés ont leur terroir et je crois qu'aujourd'hui, les consommateurs apprennent à déguster, à apprécier ces produits de terroir. Et c'est le commerce équitable qui les a amenés en rayon ces produits équitables, ces produits de pure origine.
Donc il y a un côté qualité.
Il y a un problème de qualité. Je crois qu'il y a aujourd'hui les produits de commerce équitable sont de qualité. C'était peut-être moins vrai au départ, mais aujourd'hui les produits de commerce équitable sont de qualité parce que ce sont souvent des produits de pure origine, parce que ce sont des produits qui sont bien travaillés par des producteurs, cultivés mais transformés. La transformation primaire, la fermentation du café ou la fermentation du cacao après récolte induit le niveau de qualité. Et donc dans le commerce équitable aujourd'hui, contrairement à ce qui se passe dans le marché de masse. Où on mélange un grand nombre de produits divers, le produit de commerce équitable aujourd'hui intrinsèquement un produit de qualité. Les cacaos, les chocolats, aujourd'hui on trouve sur le marché des chocolats de pure origine, à haut pourcentage de cacao, qui sont, je crois, très différents des grandes marques qu'on connaît. Chez Artisans du Monde ou chez Éthicable, vous allez trouver des chocolats à de pures origines avec des pourcentages de cacao à 80% ou jusqu'à 90%, qui sont intéressants parce qu'on redécouvre le chocolat. En consommant un chocolat qui est fait d'un cacao, qui a le goût du cacao de Madagascar ou le goût du cacao du Pérou, et non pas le goût d'un chocolat d'une tablette d'une marque X.
Peut-être revenir sur, parce que l'heure tourne, revenir sur l'aspect économique. Concrètement, comment va le commerce équitable aujourd'hui? On voit que les derniers chiffres... montre une croissance du commerce équitable en termes de chiffre d'affaires. Alors, est-ce que c'est pas l'arbre qui cache la forêt?
Alors, si effectivement on s'intéresse au chiffre d'affaires, on voit que le commerce équitable continue sa progression qui était de 10% en 2013 comparé à l'année précédente. Après, c'est effectivement, comme on l'a vu, le paysage du commerce équitable a évolué. C'est-à-dire qu'on est passé d'un secteur qui était tiré par des acteurs historiques spécialisés 100% équitables, où maintenant le relais est pris par des acteurs conventionnels qui intègrent des produits du commerce équitable dans leur gamme. On voit aussi un marché qui est en essor, qui est celui de la commande publique, où on va retrouver des produits du commerce équitable pour des vêtements de travail, donc ce qui tout de suite induit des volumes très importants, et aussi dans la restauration hors domicile, où on va trouver dans la restauration du café ou d'autres produits du commerce équitable. Donc on voit qu'il y a eu un déplacement de la consommation et des ventes du commerce équitable du secteur des acteurs historiques vers les acteurs conventionnels. Et effectivement, on peut... Si on regarde le paysage du commerce équitable, on se rend compte que beaucoup d'acteurs historiques ont disparu, liés notamment à une fragilité qu'ils avaient déjà par rapport au fait que quand vous faites le choix du commerce équitable, vous mettez aussi des contraintes volontaires parce que vous avez le souci également d'avoir le respect de l'environnement, le respect des humains, mais vous êtes aussi mis en concurrence avec un commerce conventionnel qui, lui, ne se soucie pas ou peu des humains. Et de l'environnement, et donc qui absorbe pas les coûts que peut absorber le commerce équitable qui prend en charge ses coûts sociaux et les coûts environnementaux. Donc c'est effectivement plusieurs acteurs ont disparu, donc on voit effectivement que le paysage a changé. Et on voit aussi que peut-être que l'engouement, on parlait de qu'est-ce qui peut motiver un consommateur, peut-être que l'engouement des consommateurs pour le commerce équitable a un petit peu baissé, peut-être lié à la crise économique où le consommateur est plus regardant sur ses achats de commerce équitable, peut-être moins sur ses achats de téléphone, mais ça c'est d'autres choix de consommation. Et donc effectivement on voit un recul pour les acteurs historiques.
D'accord. Et il y a des actions concrètes justement, enfin comment faire adhérer ou réadhérer le consommateur, on va dire individuel, parce qu'on en parle du rôle de la collectivité, mais comment refaire adhérer en fait le consommateur?
C'est vrai que dans les premières années, nos premières années, au début des années 2000, en 2003, en 2005, au moment où le commerce équitable passait un peu du magasin spécialisé vers le magasin conventionnel, on en parlait beaucoup. On avait souvent des articles dans la presse, on avait souvent des émissions de radio ou des émissions de télévision. Tous les ans, au moment de la quinzaine du commerce équitable, les journaux télévisés annonçaient l'ouverture de la quinzaine du commerce équitable. Et c'est vrai qu'avec avec le temps, les journalistes ont eu tendance à penser que finalement le commerce équitable, ça marchait, ça les produits vendaient, voilà, le commerce équitable est dans le marché, il n'y a plus besoin d'en parler. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait cette espèce de nouveauté, c'était le phénomène du moment. Aujourd'hui, on en parle moins, et puis je crois que les consommateurs sont comme ça, mais quand on en parle moins, on y pense moins, et donc on se lasse un peu, etc. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui de relancer. On a besoin de trouver des dynamiques. Artisans du Monde a une très belle initiative avec la Fair Pride à Paris, où tous les ans il y a un défilé au mois de mai pour une sorte de carnaval. Mais ça, c'est le genre d'initiatives qui sont un peu nouvelles. Le mouvement Faire un monde équitable, qui est une association qui réunit des militants qui font la promotion du commerce équitable, font un travail formidable. La dernière idée en vogue, c'est de faire des carottes mob, c'est-à-dire qu'on va tous ensemble, en mobilisant les réseaux sociaux, dans un magasin, acheter des produits du commerce équitable pour inciter un supermarché, par exemple, à développer ses ventes de commerce équitable. C'est pas des actions qui viennent censurer ou condamner une action, mais au contraire encourager. Voilà. Ça, c'est le genre de nouvelles choses. Je crois qu'on a besoin de reparler du commerce équitable. On a besoin de montrer que ça a de l'impact, que c'est efficace, que ça fonctionne. Puis je crois qu'on a besoin de séduire aussi avec la qualité des produits. Encore une fois, on a finalement, c'est aussi des produits de consommation alimentaire. Donc il faut que ça plaise, il faut aimer les cafés, il faut aimer les chocolats. Et je crois que nous autres acteurs du commerce équitable devons continuer à innover, faire des produits qui intéressent et qui arrivent à séduire les consommateurs.
Moi, quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un commerce équitable qui est différencié entre des entreprises comme vous et des entreprises marques distributeurs qui ont des démarches qui restent mieux que quand il y a le label Max Havelaar, ça reste de meilleure qualité, il y a un meilleur impact pour les producteurs. Mais par rapport à vos démarches, il y a quand même une différence d'implication.
Bien sûr.
Et en ce terme-là, le label Max Havelaar fait un peu, vous regroupe un peu tous dans le même secteur. Quelles actions de communication pourraient vous permettre de vous mettre en avant ou de montrer en tout cas vos différences et votre valeur ajoutée par rapport à ça?
Eh bien, vous voyez, ce soir, par exemple, on fait une émission de radio, ça permet de parler du fond aussi, de parler pas seulement de superficiellement comme ça, du commerce équitable. Alors, vous parlez beaucoup de Max Havelaar. J'aimerais quand même préciser que nous, chez Équitable, aujourd'hui, tous nos produits sont certifiés par un certificateur, la moitié encore par Max Havelaar, mais nous avons intégré d'autres certifications, notamment, j'aimerais quand même en profiter pour en dire un mot, le symbole des producteurs paysans, qui est une initiative qui provient des producteurs de commerce équitable d'Amérique latine. C'est-à-dire que c'est un cahier des charges, un label qui appartient aux producteurs eux-mêmes, qui est une initiative des producteurs, qui s'appuie sur des organismes de certification, souvent les mêmes qui certifient l'agriculture biologique dans les coopératives, pour faire le contrôle et l'audit selon le cahier des charges établi. Mais le cahier des charges et les règles sont fixées par les producteurs. Alors, Équitable a souhaité soutenir cette initiative, qui pour l'instant concerne que les produits d'Amérique latine, et aujourd'hui, environ la moitié de nos produits sont liés à ce nouveau label, qui renoue avec les fondamentaux, hein, qui a une volonté de renouer surtout sur les petits producteurs, hein, parce que vous savez, dans le label Max Havelaar, il y a deux registres, il y a les petits producteurs, mais il y a aussi des plantations avec des associations de salariés, des plantations industrielles, on va dire, avec des associations de salariés qui bénéficient de la prime de développement. Donc là, c'est aussi une initiative qui souhaite centrer le commerce équitable sur l'agriculture paysanne, les paysans. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une diversité de labels qui aussi expriment la diversité d'initiatives.
Ok. Vous avez cité, Gérald, tout à l'heure, la nouvelle loi sur l'économie sociale et solidaire. Peut-être en quelques mots, quels impacts de cette loi sur le commerce équitable dans les prochains mois, prochaines années ?
Ben, je dirais que cette loi sur l'économie sociale et solidaire, elle a un impact global sur l'économie sociale et solidaire, sur les acteurs, pour peut-être mieux définir ce qu'est l'économie solidaire et pour lui donner peut-être plus de poids. Par rapport au commerce équitable, je dirais cette loi est... C'est surtout concentré sur la définition du commerce équitable, donc effectivement avec l'élément majeur qui était le fait de lever cette frontière. Mais après, ce qu'on peut aussi noter au niveau des pouvoirs publics, c'est qu'il y a une volonté des pouvoirs publics de soutenir le commerce équitable, parce qu'on disait effectivement qu'est-ce qui peut permettre de relancer cet intérêt pour le commerce équitable. Donc on voit que avec un plan national de soutien au commerce équitable mis en place par Benoît Hamon et Pascal Canfin, qui ne sont plus là, mais j'espère que nous avons perdu les ministres, mais pas l'intérêt du gouvernement. Donc, effectivement, il y a une volonté de pouvoir soutenir le commerce équitable. Et si on l'envoie au niveau du pouvoir public, par l'évolution du code des marchés publics, qui permet aussi, notamment via des directives européennes, de favoriser l'achat de commerce équitable, donc la commande publique, qui peut être un levier formidable en termes de volume du commerce équitable.
On avait aussi une question... vous avez deux démarches qui sont différentes, une qui est plutôt orientée vers la grande distribution, une plutôt orientée vers les réseaux SPE, les réseaux spécialisés. Pourquoi ces choix ? Qu'est-ce que ça vous impose en termes de contraintes ? Il y a des forces aux deux, il y a des intérêts aux deux, il y a des difficultés aux deux. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement chacun, l'un après l'autre ?
Alors, nous, Etikable, effectivement, nous sommes présents en grande distribution. Lorsqu'on a créé cette coopérative, on a créé une marque, on l'a conçue, on l'a bâtie pour la grande distribution. Nous ne sommes pas seulement présents en grande distribution, mais notre idée était au départ d'être là où les gens vont faire leurs courses. L'idée était d'atteindre des volumes, d'avoir de l'impact aussi par les volumes qu'on pouvait obtenir de cette façon. Je laisserai Gérard expliquer la position du mouvement artisan du monde qui lui a fait le choix de ne pas aller en grande distribution. C'est un choix qui est exigeant. C'est vrai que la grande distribution a ses contraintes, a ses obligations. C'est un système de distribution moderne. Les négociations sont souvent difficiles. Il y a eu dans les premières années, je crois, une ouverture de la part de la grande distribution pour favoriser le commerce équitable. Aujourd'hui, on est davantage considéré comme des acteurs. Comme les autres acteurs, il faut que les produits puissent tourner, il faut pouvoir démontrer que ça se vend, qu'on ait des résultats. Donc c'est une difficulté. Mais cette difficulté dépend beaucoup du consommateur en réalité, parce que demain, si le consommateur achète les produits, si les consommateurs se tournent vers le commerce équitable, les magasins seront disposés à en vendre davantage. C'est lorsque le consommateur a tendance à déserter que les situations sont plus difficiles.
Et ce qui n'est pas facile aussi pour vous, c'est que souvent, vos articles ne sont pas au même rayon que les chocolats classiques. Et donc, vous êtes touché peut-être un peu plus réduit.
Oui, aujourd'hui, c'est vrai que nos produits, une bonne partie des produits commerciaux équitables sont dans le rayon bio des supermarchés. Hein, sont parfois réunis dans le rayon bio ou alors éclatés au sein du rayon. C'est-à-dire les cafés avec les cafés, les chocolats avec les cafés. On trouve quelques cafés en rayon conventionnel, mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément là où passe le plus grand nombre de personnes. Mais quand même, le rayon bio est en expansion, beaucoup de gens y vont aujourd'hui, et c'est aussi là qu'on a tendance à trouver notre consommateur.
Gérald.
Au niveau du choix d'artisan du monde, c'est vrai que le fait d'être en soi déjà une ONG de développement, mais également une organisation de solidarité internationale, un acteur de l'économie solidaire et un acteur altermondialiste, c'est vrai que nous, le choix qu'on a fait, c'était plutôt le choix de l'indépendance par rapport à la grande distribution. Parce qu'on peut pas être à la fois une association qui dénonce les pratiques de la grande distribution, du commerce conventionnel, et leur demander de référencer nos produits. Donc, à un moment, il y a forcément un conflit d'intérêts. Et si vous voulez garder votre indépendance en termes de possibilité d'interpeller le commerce, il faut pouvoir être indépendant. Et donc, c'est vrai que nous, il y a une partie importante de notre activité qui est beaucoup moins connue, qui est à la fois l'éducation, puisqu'on intervient beaucoup en milieu scolaire, pour informer, sensibiliser sur le fonctionnement du commerce international et comment fonctionne le commerce équitable, mais également on a un acteur de plaidoyer, ça veut dire qu'on mène aux côtés d'autres organisations des campagnes qui visent à informer le public sur le fonctionnement du commerce international. Donc on peut être amené à soutenir des campagnes qui peuvent concerner, je citais tout à l'heure la question de la politique agricole commune et semences, mais ça peut être aussi une campagne qui est assez actuelle, qui est le TAFTA. Donc voilà, on est par nos affiliations, puisqu'on est membre fondateur d'Attac, on est dans pas mal de réseaux, comme le collectif pour une transition citoyenne qu'on vient de rejoindre. Donc voilà, on a pas mal, je dirais, de combats à mener pour pouvoir faire changer les pratiques du commerce international.
Ok. Je vais me faire juste, avant la fin de l'émission, l'avocat du diable. On parlait d'une perte d'adhésion des consommateurs vis-à-vis du commerce équitable. Donc il y a une crise qui est passée par là. Peut-être le coût du produit pour le consommateur. Est-ce que c'est pas un des éléments d'explication, ou comment est-ce qu'il y a-t-il des moyens de se rapprocher, je sais pas, des coûts.
Les prix des produits de commerce équitable sont pas.
Je vous ai dit, je suis l'avocat du diable.
De mon point de vue, sont pas exagérés. Tout dépend à quoi on les compare. Si à qualité égale, bien souvent, on n'est pas forcément plus cher. Si vous comparez un café de pure origine Pérou avec un café sur un fond noir qui provient d'un mélange d'une vingtaine d'arabicas différents selon l'évolution du marché mondial avec un goût standard, effectivement, le pure origine Pérou bioéquitable pourrait paraître plus cher, mais si vous le comparez à un produit de qualité équivalente, finalement, il n'y a pas tellement de différence.
Okay. Donc, effectivement, on est beaucoup sur des choix de consommation, en fait. Effectivement, c'est, on le voit bien, c'est qu'est-ce que les consommateurs sont prêts à mettre de l'argent dans des vêtements, dans des appareils, dans des abonnements. Après, est-ce qu'il est prêt à mettre 20 ou 30 centimes de plus dans du commerce équitable? Est-ce que le grand débat, est-ce qu'on veut consommer moins, mais consommer mieux? Il y a aussi la question du gaspillage, parce qu'on sait très bien qu'en moyenne, un ménage ou une personne dépense 450 euros pour des produits qui vont finir à la poubelle. Donc, après, on est vraiment beaucoup sur les questions d'éducation et de la consommation, et déjà aussi de compréhension comment calculer les prix. Donc là, il y a aussi un formidable travail à faire d'information du consommateur pour lui permettre d'avoir des choix éclairés et pas juste s'arrêter au prix du produit.
On arrive bientôt à la fin de cette émission, chacun après l'autre. On aimerait savoir de quoi vous rêvez pour le commerce équitable dans 5-10 ans. Qu'est-ce que vous voyez pour son avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez pour son avenir?
Moi, je souhaite qu'il continue de se développer, que tout le marché devienne équitable, évidemment. Alors, c'est pas forcément très réaliste parce qu'aujourd'hui, la grande consommation, les produits de grande consommation dont on parle sont quand même tenus et par la grande distribution et par des entreprises multinationales. Toutes les grandes marques alimentaires qui nous entourent proviennent de grands groupes. Donc, c'est pas évident. Mais bon, on espère que le volume de commerce équitable puisse demain progresser, que des organisations de producteurs puissent se consolider et qu'on puisse avoir demain de meilleurs équilibres sur les marchés internationaux.
Je dirais que je partage ce rêve, et je partage aussi le fait que le commerce équitable est un outil formidable en termes d'éducation du consommateur, et je pense que c'est là aussi qu'est la clé du changement d'une plus grande échelle. C'est-à-dire, si on veut changer au bénéfice de la maximum d'acteurs, que ce soit au sud ou au nord, effectivement, ça change l'action du consommateur qui va pouvoir entraîner un changement politique sur les règles et le fonctionnement du commerce international. Donc si on veut agir massivement, c'est là qu'il faut agir. Donc on espère que le commerce équitable va petit à petit continuer à insuffler et inspirer un changement de pratique des règles pour vers plus d'équité.
Alors, malheureusement, l'émission touche à sa fin. Donc voilà, des échanges très intéressants. Donc je voulais vous remercier. Donc merci Gérald Godreuil. Donc je rappelle, vous êtes délégué général de la Fédération Artisans du Monde. Donc merci d'avoir participé à cette émission. Merci Christophe Eberhardt. Vous êtes donc cofondateur de la coopérative Éthicable. On remercie Claude aussi, qui a assuré la technique de l'émission. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'émission sur le site de la Fondation Copernic, sur fondation-copernic.org, et également la réécouter mercredi matin si vous êtes matinal. Le prochain volet de l'émission Mode d'emploi version Fondation Copernic aura lieu le vendredi 28 novembre sur un tout autre thème, l'état du système hospitalier et de santé en France. Nous nous quittons avec Ridan et l'agriculteur. Merci à tous, bonne soirée.
Merci.
Merci, bonsoir.
allumer mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des...